Jean-François Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous êtes théologien, spécialiste de la Russie, patron des éditions du Cerf aussi, vous êtes éditeur, auteur vous-même de plusieurs livres. L'un des derniers s'appelle « L'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski ». Vous en avez un autre en préparation qui s'appelle « La crucifixion de l'Ukraine », qui sortira à la rentrée chez Albin Michel, je crois.
C'est ça.
Alors cette semaine, bien sûr, l'un des événements qui a marqué l'actualité de cette guerre, c'était le 9 mai, lundi dernier à Moscou, la célébration de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, qui était au fond, qui a servi de prétexte à un discours sur la guerre d'aujourd'hui. C'est Kevin Elias.
Une ode au patriotisme et un appel à continuer le combat. Devant plusieurs milliers de soldats sur la place Rouge, Vladimir Poutine l'affirme, la Russie ne lâchera pas.
Nous n'allons jamais renoncer à notre foi, à notre patrie et aux traditions de nos ancêtres.
L'objectif est de galvaniser les troupes. Le président russe compare le combat mené dans le Donbass à celui de la Seconde Guerre mondiale.
Vous combattez aujourd'hui pour ce pourquoi vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères ont combattu, pour la sécurité de la patrie. Ceux qui ont terrassé le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ont montré cet exemple héroïque à tout jamais.
Fidèle à son discours, il justifie l'intervention russe en Ukraine par la menace des pays de l'OTAN.
Il préparait une nouvelle opération punitive dans le Donbass pour envahir nos terres historiques, y compris la Crimée, en créant des menaces inacceptables à proximité de nos frontières. Ce heurt était inévitable.
Mais Vladimir Poutine l'assure, il veut éviter un nouveau conflit mondial.
Nous gardons la mémoire de ceux qui ont terrassé le nazisme et qui nous ont confié cet héritage, de tout faire pour que l'horreur de la guerre globale ne revienne jamais.
Un discours très court, pour un 9 mai plus sobre qu'annoncé, les commémorations n'ont duré qu'une heure et le défilé aérien, très attendu, a finalement été annulé pour raisons météorologiques.
Alors évidemment, quand on entend cet argumentaire qui compare le nazisme à l'Ukraine, c'est complètement saugrenu pour dire les choses de façon charitable. Au fond, cette guerre, on l'attribue parfois à l'esprit malade d'un homme, Poutine, qui dirige la Russie. Pour vous qui connaissez bien ce pays, est-ce que vous y voyez autre chose justement que le délire de réécriture de l'histoire de Poutine? Est-ce qu'il y a des invariants? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rappellent des périodes que vous avez étudiées, travaillées, que vous connaissez mieux quiconque?
Écoutez, je pense que tout à fait simplement, Poutine n'a rien réglé de l'héritage du communisme. Il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Donc depuis, la Russie actuelle vit à la fois une sorte d'hypermnésie et d'amnésie. Le 9 mai, on rassemble en fait la population et on demande aux gens de défiler avec le portrait de leur mort sur le front en 41-45. Ça s'appelle le régiment des immortels, c'est la transfusion du sang des morts dans le sang des vivants, parce que la Russie doit être en alerte. Alors ce discours, il est connu, c'est celle d'une Russie encerclée, fragile en raison de l'immensité de son espace, qui a contre elle l'hostilité des nations.
Ça, pour le coup, c'est vrai depuis toujours.
Ça n'est pas vrai depuis toujours. Il y a eu un moment, le moment de la naissance de la Russie telle que la connaissons, est marqué effectivement par le fait que c'est à peu près le seul pays orthodoxe qui reste libre, puisque l'entier monde orthodoxe est passé sous l'Empire ottoman, les Turcs, et que ce petit pays au départ, la principauté de Moscovie, voit arriver sur elle, alors qu'elle s'est à peine libérée de l'islam des Tatars, qu'elle veut être libre de l'islam des Ottomans, les nations chrétiennes, latines et germaniques, la Pologne, la Lituanie, qui à ce moment-là sont un véritable empire, et elle manque effectivement d'être mort-née. Mais on peut dire que depuis quand même, l'empire d'Ivan le Terrible, de Pierre le Grand, de Nicolas Ier, a quand même pris largement sa revanche, y compris sur les ennemis du début, n'est-ce pas ? Donc il y a cette idée-là d'une Russie qui a un destin d'exception et qui doit à tout prix, en fait, prendre les devants avant qu'on ne l'extermine. Maintenant, dans ses discours, il n'a pas cessé de varier. Il nous a parlé, il a pris un prétexte donc de légitime défense. Oui. Réagir avant qu'il ne soit trop tard. Un prétexte humanitaire, aller sauver les populations russophones et orthodoxes du Donbass qui étaient vouées, selon lui, à l'extinction. Ensuite, il a repris ce thème de la Grande Guerre patriotique. Pourquoi ? Parce que la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, c'est 20 millions de morts. Mais ces 20 millions de morts permettent d'excuser en quelque sorte les 40 millions de morts du communisme. Parce que là, il y a eu un sens au sacrifice. Et donc, il est parti dénazifier l'Ukraine, qui évidemment n'est en rien nazie. Et puis, pour finir, il nous a dit qu'il allait désukrainiser l'Ukraine. C'était un discours quasiment pré-génocidaire. Et à la fin, il nous a dit « Non, c'est une guerre de civilisation que je mène contre l'Occident décadent, qui veut ma peau. » Vous voyez, on a eu quantité de discours.
S'il y avait une raison, à votre avis, c'est laquelle ? Quelle est la raison pour laquelle il s'est lancé dans cette affaire la plus importante ?
Je crois parce que... c'est la fameuse question de savoir si Poutine a toujours été Poutine et si, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il projetait cette invasion de l'Ukraine qui, de surcroît, est fratricide, puisqu'il fait cette guerre au nom supposé de l'orthodoxie slave, mais les Ukrainiens sont des orthodoxes slaves à 70-80%. En fait, je pense que le véritable hiatus, c'est que le jour où Poutine a pratiqué le gambit avec Medvedev, c'est-à-dire le jour où, lui qui était président, ne pouvant plus être président, il a choisi son premier ministre comme président et est devenu premier ministre afin de pouvoir redevenir président, tout ça en croyant nous épater par cette espèce de mascarade pseudo-démocratique, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire 2011, le régime a commencé véritablement à virer, au point d'être arrivé aujourd'hui à une répétition de tous les schémas totalitaires de l'ex-Union soviétique, n'est-ce pas ? À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. La guerre d'Ukraine a été préparée par la fermeture de Mémorial, une association qui se consacrait à collecter les archives du Goulag, parce qu'il fallait qu'on puisse taire les crimes d'hier pour procéder aux crimes d'aujourd'hui. Et de la même manière, il y a eu un tsunami de dispositions législatives qui ont supprimé les rares médias libres qui restaient. Quant à l'opposition, vous connaissez le cas de Navalny, elle était en prison ou en exil. Donc on a une chape de plomb totale. Je crois qu'il a choisi ce moment-là pour l'Ukraine, non pas parce que l'OTAN le menaçait, tout ça, ce sont de faux discours.
C'est des habillages.
Ce sont des habillages. Je veux dire, les États-Unis eux-mêmes, en dehors même de l'OTAN, disposent d'un arsenal atomique qui est entreposé en Turquie et dans 8 pays de l'Union européenne. Pourquoi il aurait fallu peupler la frontière de l'Ukraine de missiles ? Ça ne tient pas debout. Non, je crois qu'il a vu que l'Occident était faible. Biden se rapprochait de son mi-mandat et c'était pas une présidence triomphante.
Oui.
Emmanuel Macron avait sa campagne des présidentielles.
Angela Merkel
partait et Boris Johnson était dans un tas d'embrouilles très britanniques sur sa mauvaise conduite durant la pandémie. Je crois qu'il s'est dit qu'il était temps parce que, en fait, Poutine, encore une fois, et c'est la doctrine Primakov qui a été instaurée sous Boris Yeltsin, du nom de son ministre des Affaires étrangères,
c'est
que la Russie a un ennemi, c'est l'Occident. Et là, c'est réveillé, en fait, 1000 ans d'histoire, effectivement d'une histoire réécrite, n'est-ce pas, mais qui voit véritablement le triomphe de l'idée messianique de la Russie. La Russie est là pour sauver le monde de son antithèse, cette Europe malade, cette Europe jugée décadente, faible, etc.
On reviendra bien sûr là-dessus dans un instant. Auparavant, quelle part pensez-vous que les valeurs orthodoxes joue dans cette affaire-là, dans l'esprit, dans l'imaginaire de Poutine?
Écoutez, c'est assez simple. L'Église orthodoxe a donné plus de martyrs entre 1917 et 1991 que toutes les églises chrétiennes réunies pendant 20 siècles. Ça a été, au sens propre, un holocauste entre 1917 et 1941, c'est-à-dire au moment de l'invasion soviétique. Ce sont 600 évêques, 40 000 prêtres, 120 000 moines et moniales qui ont disparu dans les camps, 75 000 lieux de culte qui ont été détruits. À ce moment-là, lorsqu'il y a l'invasion nazie, à laquelle il ne croit pas Staline, de la même manière que Poutine a cru qu'il allait entrer en Ukraine et qu'on allait l'acclamer, n'est-ce pas ? Il y a une espèce là, de répétition de l'aveuglement de la tyrannie. Mais Staline est obligé de sortir l'Église des enfers, parce qu'il a besoin d'elle, parce que la guerre va être patriotique. C'est Mère Russie qu'on va défendre, c'est pas le communisme. Et c'est comme ça qu'il va arriver à mobiliser. À partir de ce moment-là, il y a un pacte qui s'établit entre l'Église et le KGB. Le KGB desserre les taux, pas trop, ne rêvons pas. Et d'un autre côté, l'Église, parce qu'elle est invitée internationalement, va se faire la championne du bonheur d'être soviétique, la championne du désarmement, la championne du tiers-mondisme, du mouvement des non-alignés. Un homme est le produit de ça, il est éduqué là-dedans, c'est Kirill, le patriarche actuel de Moscou, qui a vraiment été nourri au lait du KGB et qui aujourd'hui fait partie intégrante du système parce que c'est un oligarque. C'est un oligarque dont la fortune a été estimée par vos confrères russes d'investigation, quand ils pouvaient encore travailler, à 2 milliards de dollars, avec des actions dans l'hôtellerie de luxe, dans les pêcheries d'esturgeon pour le caviar, mais aussi les usines d'armement. Donc on est là, si vous voulez, face en plus à la reproduction, parce que tout ça a un petit côté, si je puis dire, démoniaque, dans le sens où, évidemment, ce n'est pas le rôle d'un primat d'église chrétienne que d'être, je dirais, le serviteur des basses œuvres, pas en prêchant la croisade, d'un despote qui, lui, est prêt à mettre à feu et à sang le monde. Mais là, on est là dans une conformation typique. Le parti avait supprimé l'église. Lorsqu'il n'y a plus l'église, lorsqu'il n'y a plus le parti, l'église a repris la place du parti. Et d'autant plus que Kirill était le ministre des Affaires étrangères du patriarcat de Moscou, de cette église, et que cette église, elle est la dernière entité à couvrir l'ensemble du monde soviétique. L'église, elle est présente à Kiev, à Minsk, dans les pays baltes, dans les républiques d'Asie centrale.
Donc c'est un vestige de l'Empire d'un certain côté.
C'est un levier diplomatique et d'influence géopolitique. Et en fait, lorsque Poutine fait sa guerre en Syrie, la majorité de la population chrétienne, non pas la majorité de la population, mais la population chrétienne est orthodoxe en Syrie, et Kirill est là, et lorsque Poutine arrive au Mali avec les mercenaires Wagner, c'était il y a quelques mois, Kirill, qui n'a rien à faire là, parce qu'il y a une église orthodoxe en Afrique, crée sa propre église orthodoxe en Afrique. Vous voyez donc le degré de collusion est total, et donc on se retrouve avec un patriarche qui demande en fait aux troupes russes d'aller extirper les forces du mal, les forces de la perversion, quoi, encore une fois, le démon occidental.
Prochaine étape de cette guerre, on évoque beaucoup la Transnistrie, cette enclave en Moldavie, c'est ce que pensent les services secrets américains, et c'est Pierre-Henri Holderbaum qui nous raconte cela.
Les plans de guerre de Vladimir Poutine démasqués. La chef du renseignement américain croit savoir ce que va faire l'armée russe.
Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass.
Auditionné au Congrès américain, Avril Haines estime aussi que le Kremlin veut étendre le conflit.
Nous avons aussi des indices que l'armée russe veut étendre le pont terrestre à la Transnistrie. Bien que l'armée russe soit capable de remplir ses nouveaux objectifs dans les mois à venir, nous pensons qu'ils ne pourront atteindre la Transnistrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale.
Elle ajoute que le président russe pourrait prendre des mesures pour museler toute opposition.
La tendance actuelle augmente les chances que le président Poutine se tourne vers des mesures plus drastiques, y compris l'instauration de la loi martiale.
La chef de la CIA écarte tout de même pour l'instant l'utilisation des armes nucléaires par Vladimir Poutine.
Vous y croyez à l'extension du conflit en Moldavie ?
Je veux pas être un peu bravache, quoi, mais lorsqu'on connaît l'histoire, on a l'impression d'être aussi bien informé que la patronne de la CIA sans satellite. Il y a une diplomatie, il y a une action extérieure russe depuis que la Russie est un empire et est sortie de la Russie, n'est-ce pas ? C'est l'accès aux mers chaudes, sans quoi il faut qu'ils passent par le pôle Nord pour gagner n'importe quelle mer, les Russes. Donc, de ce point de vue-là, toute la politique de développement a été la politique d'abord qu'on retrouve chez Poutine. L'unité du monde russe, c'est-à-dire Russie, Ukraine, Biélorussie. Deuxièmement, la protection de l'espace par des zones tampons, Géorgie, par exemple, Transnistrie, parce qu'elle est de facto la Transnistrie sous l'égide de Moscou depuis 1991.
Russifiée en partie, oui.
Ouais, bon, donc, Et puis, ces points d'appui qui permettent d'aller vers l'Orient, la Crimée, bien sûr, etc. Lavrov et Poutine, ils étaient extraordinairement prévisibles, en fait. C'est parce que nous avons un peu perdu la mémoire dans nos propres chancelleries de ce que fut le grand jeu, de ce que fut la question d'Orient, qui sont vraiment les deux axes qui ont enflammé le monde à partir du 18e siècle et tout du long jusqu'en 1917. Donc c'est parce qu'on n'avait plus cette mémoire, peut-être qu'on n'a pas vu. Donc la boucle vers la Transnistrie, c'est très simple. C'est ce que faisait Nicolas Ier en 1850. C'est ce que faisait Catherine la Grande en 1780. C'est-à-dire, un, tenir la Crimée pour avoir l'accès aux mers. Deuxièmement, descendre par le Caucase vers l'Orient. Troisièmement, tenir ce qu'on appelle les principautés, on appelait alors les principautés danubiennes, qui appartenaient à l'Empire ottoman d'ailleurs, la Roumanie, Moldavie. La Moldavie s'appelait alors la Bessarabie. Vous voyez combien de fois nous avons envoyé des corps expéditionnaires en Bessarabie pour stopper les Russes. Déjà, c'est une constante, c'est une invariance. Et ces régions danubiennes, ce sont les embouchures du Dniepr et du Danube, n'est-ce pas, qui nous mènent en fait à cette boucle idéale pour Poutine, qui va du Donbass en fait à la Transnistrie, en passant par Mariupol, Odessa, etc. Donc là, on est sur, malheureusement, je dirais, avec des moyens terribles, et encore une fois, il faut saluer la résistance ukrainienne, mais du point de vue de l'observateur, on est malheureusement sur un grand classique. Quant à la mobilisation générale, il faudra qu'il y vienne, puisqu'il s'est enlisé. Et puis, deuxièmement, il n'a pas d'échappatoire. Troisièmement, l'entrée de l'Amérique en guerre par procuration.
Oui.
C'est à ça qu'on assiste tout de même, hein, puisque le but désormais, c'est d'affaiblir la Russie. Et le renforcement de la résistance ukrainienne avec des armements tout à fait désormais lourds et compétitifs.
Est-ce que tout ça, ça ne nous mène pas à l'arme nucléaire?
Ça nous mène à l'arme nucléaire, puisqu'il faut savoir que dans la doctrine Primakov-Gerasimov, Gerasimov étant un général qui est venu compléter, un général de Poutine qui est venu compléter cette théorie, dans la théorie de la guerre hybride, on intervient dans les processus électoraux, on manipule les réseaux sociaux, on mène des conflits classiques et on se réserve la capacité de frappe nucléaire tactique. Ce qui n'est pas vrai pour nous, par exemple, puisque pour nous, l'engagement atomique, il est total ou il n'est pas, c'est sur quoi repose la dissuasion. On peut penser que Poutine fera des attaques chimiques avant des attaques nucléaires, parce que, je suis désolé de parler ainsi, hein, mais c'est l'horreur de la guerre.
Il y a une gradation.
Et puis parce que, en fait, les territoires qui ont subi des attaques chimiques, on peut plus rapidement les réoccuper que... et puis surtout, c'est pas le... Enfin, c'est déjà un degré de provocation énorme, parce que là, on tombe sur des interdits, des tabous, hein, internationaux, n'est-ce pas? Et puis, comme ça l'obligerait à dévoiler qu'il a continué à les fabriquer, contrairement à ce qu'il prétend. Mais on peut pas exclure une frappe nucléaire tactique qui serait l'équivalent d'un Hiroshima.
Dernière question sur Poutine lui-même. Est-ce qu'il est solide politiquement? Certains spéculent sur le fait qu'au bout d'un moment, la fatigue de la guerre, les morts russes au combat vont fragiliser son assise politique et pourraient provoquer une espèce de complot de château, hein, au Kremlin lui-même, et provoquer son renversement au profit d'une faction qui voudrait prendre le pouvoir. Vous y croyez ou
c'est
pas?
C'est un scénario idéal. Est-il malade? A-t-il... un cancer de la thyroïde? A-t-il une forme de Parkinson générative? Y a-t-il des jeunes gens autour de lui qui vont prendre le pouvoir? La réponse, c'est que depuis le 24 février, il a purgé par deux fois le FSB et par deux fois l'état-major. Et que les gens qui sont autour de lui sont complètement solidaires de lui. Juste un peu avant le 9 mai, le ministère de la Culture russe... s'est affranchi d'une interdiction qui jusque-là valait. Les Russes ont récupéré, dit-on, les archives de Hitler et les ultimes mots de Hitler. La presse russe s'est faite l'écho du fait que le dernier texte écrit de Hitler aurait été « Je me suicide parce que j'ai été trahi par mes généraux ». C'était un avertissement. Poutine ne se laissera pas trahir. En tout cas, on en est très loin. Et malheureusement, vous le voyez bien, aujourd'hui, en l'absence d'opposition, encore une fois, en prison ou en exil, en l'absence de presse libre, en prison ou en exil, les Russes sont bombardés tous les jours d'images où on voit Kiev flamber et où on leur dit « voilà ce que Zelensky et les nazis sont en train de faire à vos frères ukrainiens ». Donc, on est dans un anti-monde. Très sincèrement, on n'avait pas vu ça, même, je crois, à ce point sous l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique, il y avait le KGB, mais il y avait le Politburo. Il n'y a plus de Politburo. Poutine a inventé la première espiacratie du monde. Les agents secrets ont pris tous les pouvoirs. Ouais. Politiques, économiques, culturels, religieux. Religieux, ça, Kirill.
C'est malheureusement assez stable.
Je crains que ce soit très stable. Et la psychose dans laquelle il a plongé les Russes est telle que je ne suis pas sûr que même sa défaite suffirait à ce que la question russe cesse. Ça sera une question longue. Nous aurons plus de facilité à rétablir l'Ukraine et les Ukrainiens que la Russie et les Russes. C'est pourtant un véritable enjeu pour nous.
Pendant ce temps-là, à l'Ouest, aujourd'hui même, la Finlande fait acte de candidature à l'OTAN. La Suède s'en approche, hein, elle dit qu'elle allait suivre de peu. On écoute le président finlandais.
Aujourd'hui, le président de la République et le comité gouvernemental en charge des questions de politique étrangère ont conjointement décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière rencontre, ici, le 24 février. C'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre.
La Finlande dans l'OTAN, la Suède dans l'OTAN, c'est une question de jour. Alors, il y a l'opposition de la Turquie. On peut imaginer que, bon, elle met un peu son...
L'opposition de la Turquie, vous savez, elle tient au fait que la Suède et la Finlande
accueillent
les Kurdes. Voilà. Donc, si la Finlande et la Suède mettent les Kurdes sous le boisseau, la Turquie signera. Erdogan mène un jeu très compliqué avec Poutine. Ils sont de la même race, n'est-ce pas? Erdogan attaque le Haut-Karabakh et la question se règle à Moscou. Mais pendant ce temps, juste après, Poutine attaque l'Ukraine et le peu de négociations qu'il y a entre Russes et Ukrainiens se fait
ça
en Turquie.
Ça se fait à Istanbul.
Donc, ils se font la courte échelle de ce point de vue-là. Et un des graves problèmes de l'OTAN, ce n'est pas l'entrée de la Finlande et de la Suède,
c'est la
Erdogan.
De la Turquie.
La Turquie d'Erdogan.
Est-ce que vous pensez que Poutine peut voir comme une provocation l'extension géographique de l'OTAN avec une frontière commune de plus de 1300 km entre la Finlande et la Russie?
C'est un opportuniste.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que s'il y voit un moyen, en fait, d'un gain politique, diplomatique ou militaire, il s'en servira. Mais je crois, moi, que sa religion est assez faite là-dessus, si je puis dire. Il sait très bien que l'OTAN est là. Ce sur quoi il parie, vous savez, il l'a dit. Concernant les sanctions économiques, les Occidentaux en pâtiront plus que les Russes, et pas simplement les Occidentaux, les pays pauvres du reste du monde. Alors d'abord, il y a deux choses. C'est que, un, la Russie vaudrait l'Occident. C'est un face-à-face qu'il réclame. Deuxièmement, il essaie depuis le départ de mondialiser ce conflit en polarisant le Sud contre le Nord. Alors, il n'y arrive pas dans les termes, parce qu'il n'a pas, dire la Chine, l'Iran, le Venezuela, qui sont ses amis traditionnels, ne sont pas au rendez-vous de sa guerre. Mais en revanche, dans les populations du Sud, en Inde, au Brésil, ailleurs, le fait que, sans adhérer à sa personne et à sa guerre, mais le fait qu'il se dresse contre l'Occident, cette fiction complète, ça lui vaut des gains. Vous êtes mieux placé que moi. Le problème, c'est est-ce qu'il tiendra économiquement parce que est-ce qu'il arrivera à vendre son gaz et son pétrole? Certainement. Est-ce qu'il arrivera à les vendre à bon prix et rapidement? C'est l'autre question. En fait, lorsqu'il dit « les Occidentaux souffriront plus », il veut dire aussi que les Russes sont prêts, selon lui, à plus souffrir. Et le peuple souffrant, l'endurance à la souffrance... C'est une des caractéristiques du génie russe.
Mais là, quand même, au bout de 3 mois de guerre, on voit que l'OTAN va finalement étendre sa zone géographique, que le levier stratégique de l'énergie est en train de s'éroder, parce que petit à petit, nous sortons de la dépendance au gaz russe, au pétrole. Ça va prendre du temps, contrairement à ce que disent les Européens. C'est pas 6 mois, c'est peut-être 3 ans. Mais c'est en route. De ce point de vue, il y a une marche qui est probablement irréversible et qui va priver la Russie d'un levier important. Bilan de ces trois mois de guerre, assez coûteux quand même pour la Russie.
Totalement coûteux, mais vous savez que...
Alors, ce n'est pas la raison qui conduit...
Il montre que c'est un crime prémédité, parce qu'encore une fois, la guerre d'Ukraine est un crime, rien ne l'y est obligé, et surtout, c'est une guerre, encore une fois, fratricide. Eh bien, le caractère prémédité, c'est que vous le savez, il a d'une part réduit considérablement sa dette publique, d'une manière un peu étonnante même, mais très forte, et deuxièmement, il a fait des réserves. Donc, diminution de la dette et accroissement des réserves. Ça, c'est une économie de guerre. Voilà.
Ça fait longtemps que c'était en préparation. Alors, une partie des réserves a été gelée parce qu'elle était stockée à l'ouest, mais il en reste probablement. Voilà.
En fait, la véritable question, parce qu'on retombe là-dessus, et c'est pour ça aussi que cette guerre a quelque chose d'insensé, parce que pour nous, Européens de l'Ouest, une partie de notre destin se joue à l'Est et se joue aussi avec la Russie, même si la Russie ne sera jamais dans l'Europe, parce que la Russie, elle est ni en Europe ni en Asie, elle est en Russie. Ça, c'est le mot de Malraux. Mais d'un autre côté, on voit que l'intervention américaine est très lourde, parce que maintenant, on va acheter du pétrole américain, lequel va être beaucoup plus cher en raison du mode de transport. On voit que l'Allemagne réarme. Poutine a tout faux. Enfin, l'OTAN recrute, l'Union européenne livre des armes, l'Amérique est de retour en Europe, l'Allemagne réarme mais achète américain, ce qui veut dire qu'elle se place au commandement américain, parce que quand vous achetez de l'armement, la technologie qui va avec vous rend dépendant.
Une
interpénétration. Donc la véritable inconnue, c'est la Chine. La Chine est très prudente, c'est un empire plutôt commercial. Xi Jinping a ses propres problèmes à l'échéance du Congrès. Mais ce rapport Russie-Chine, c'est-à-dire un peu cette fantasmagorie qui a toujours été la théorie de l'eurasisme, à savoir que la Russie devait se tourner vers l'Asie plutôt que vers l'Europe, ce basculement profitera à la Chine qui n'a qu'une envie, c'est avaler la Sibérie. Or, la Sibérie aurait pu être dans une association européenne-russe, si Poutine ne l'avait pas détruite, un ressort de la richesse pour les Russes et pour les Européens au cours de ce siècle.
C'est la Chine qui va récupérer à bon compte tout ça.
Je le crains. Et je crains que l'administration Biden a trouvé, parce que c'est un peu reptilien pour les Américains, ce retour de guerre froide, que l'administration Biden a trouvé de quoi s'illustrer à l'étranger et délaisse le dossier chinois, le dossier pacifique.
Oui.
Mais après la Méditerranée, après l'Atlantique, le bassin où tout va se jouer, c'est le bassin pacifique désormais, c'est là le centre du monde. Et les Chinois, en fait, on l'a vu, sont assez agressifs. Tout ça se fait dans le grand désordre. Lorsque les Australiens n'achètent plus nos sous-marins, notre technologie, ils se tournent vers les États-Unis, lesquels associent l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui vient de sortir de l'Europe. De la même manière que Boris Johnson s'est précipité pour proposer son aide militaire, lui qui n'est plus dans l'Europe, à la Finlande et à la Suède, avec même ce truc incroyable, disant qu'il était prêt à les couvrir de son parapluie nucléaire. Alors je vais vous dire, là on est en pleine hystérie et folie, chaos international, parce qu'un parapluie nucléaire, vous ne l'utilisez pas pour quelqu'un d'autre que vous. Parce que ça veut dire vous exposez vous-même à la mort. Donc voilà, je trouve qu'on est dans le chaos.